Voilà, et bien comme chaque deuxième ou troisième, selon le cas, mercredi sur Radio Campus, mercredi du mois, nous accueillons une doctorante ou un doctorant. Aujourd'hui, c'est une doctorante dans le cadre d'un partenariat avec Ombelli Science, qui est une association partenaire de l'Université de Lille. Et donc, nous parlons, nous évoquons des travaux de recherche. Et aujourd'hui, eh bien, c'est un entretien que nous aurons avec Fanny Grisetto, qui est docteur en psychologie au laboratoire Scalab de l'Université de Lille, au CNRS. Voilà. Bonjour tout d'abord, donc, Fanny Grisetto.
Bonjour.
Alors, un thème un peu particulier, enfin, vous allez me dire qu'ils sont tous particuliers dans cette série, les impulsifs invisibles. Ça fait rêver.
Alors, c'est une expression qui m'est venue au cours de ma thèse pour désigner ces personnes qui, même si on pourrait les considérer comme impulsives, quand on regarde leur personnalité, à travers des questionnaires par exemple, ces personnes n'ont pas les comportements qu'on attend de quelqu'un d'impulsif. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas avoir ces comportements qu'on connaît tous de quelqu'un qui... peut claquer la porte sur un coup de tête, acheter une voiture sur un coup de tête. Mmh. C'est en ça que j'ai appelé les impulsifs invisibles.
Voilà. Donc, si on peut résumer les personnalités des humains, il y a des gens qui sont impulsifs et d'autres qui sont plus sur le contrôle, on va dire. Et là, vous voulez dire qu'il y a des gens qui sont par nature impulsifs, mais dont l'impulsivité ne se déclare pas forcément tout de suite.
Ce serait plus qu'elle est cachée par des capacités de contrôle. De manière générale, on est tous plus ou moins impulsifs. Ça va nous arriver à tous d'agir de manière impulsive si je suis fatiguée, si je suis stressée, alors que de manière générale, je ne suis pas du tout impulsive. Mmh. Au contraire, il y a des gens qui vont être beaucoup plus impulsifs et donc ça sera plus fréquent. Mais dans ce continuum, il y a des personnes qui sont impulsives, mais qui ont des capacités de contrôle de l'action qui permettent un peu de cacher et de ne pas avoir ces comportements.
Alors, est-ce que l'expérience fait partie d'une panoplie qui permet justement à ces personnes de se contrôler, de différer peut-être des actions ?
L'expérience au cours de la vie, de gagner en expérience ? Oui, je pense. D'ailleurs, on voit quand le développement d'un enfant, finalement, un enfant est plus impulsif quand il est très jeune que quand il devient un vieil adolescent, j'ai envie de dire. Avec ça, il y a aussi la maturation des fonctions exécutives qui nous permettent de contrôler nos actions. Donc oui, cette expérience, ce vécu, aussi permet de mieux gérer les situations dans lesquelles on pourrait agir de manière impulsive.
Donc il y a des situations, justement, on va dire banales, hein, où l'impulsivité peut avoir des effets, pas forcément secondaires, des effets d'une manière générale. Je vais prendre quelques cas. Tout d'abord, on peut commencer par conduire une voiture. On est sur une route. A priori, on roule tranquille. Et puis, il peut y avoir des événements qui se passent. On réagit à ces événements en adaptant un comportement. On utilise le matériel à notre disposition qu'on maîtrise un peu. C'est quand même le mieux d'avoir un permis, etc., de savoir se servir de la voiture. Il y a des gens qui ont plus de facultés que d'autres à résoudre des problèmes d'adaptation, des situations imprévues.
Je pense que oui. Je ne sais pas si, du coup, ce sont ces impulsifs dont on parle, mais on a des capacités réactives. C'est aussi de ça dont je parle dans ma thèse, ces capacités de contrôle réactif. Oui, on a des différences interindividuelles. Certaines personnes seront plus capables de mettre en route rapidement une adaptation face à un événement inattendu.
Mmh. Alors, il y a d'autres situations, par exemple devant la nourriture. C'est quelque chose de... on va dire courant. Hein. Donc c'est très étonnant, enfin, c'est très curieux d'analyser les pratiques alimentaires et aussi dans une situation de tentation, comment les gens répondent ou non à des pièges d'une certaine manière qui nous sont tendus par une société dite de consommation.
Oui, exactement. On est entouré par des stimulations constantes. Là, actuellement, je suis en train de contrôler mon action pour voir si les visages autour de moi comprennent ce que je raconte pour contrôler mon discours. Donc face à la nourriture, c'est la même chose. Et c'est justement cette ces capacités de contrôle des stimulations autour de moi que j'ai analysées dans ma thèse pour voir s'il y avait des différences entre les personnes plus ou moins impulsives.
Est-ce que cette impulsivité, elle est exploitée par les tentateurs ?
Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'elle peut l'être. Parce qu'on a des choses dans la littérature, bon, c'est pas du tout mon sujet de thèse, mais on a des choses dans la littérature qui tendent à montrer que, notamment au niveau du marketing, on va avoir des formes, des couleurs, des textures qui vont nous tenter plus, de manière générale, même quasi universelle, on va dire. Et oui, donc ces connaissances-là sont utilisées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les polémiques, mais sont utilisées dans le marketing pour, en tout cas, tenter le consommateur. Et c'est au consommateur de contrôler, du coup.
Les sociologues sont soumis à pression pour donner des indications aux marchands ?
Je ne saurais pas vous dire. La recherche peut être utilisée par tout le monde. Et du coup, on fait la recherche dans un but... particulier, mais nos résultats peuvent être utilisés de différentes manières.
Une des grandes inconnues aussi, enfin pour moi, c'est un petit peu le cerveau humain, dans ce qu'il a de plus ancien, de plus profond, de plus instinctif, primitif. On pourrait considérer que ce cerveau qui est peut-être pas évolué autant que la société a encore des repères et des stimulations qui lui donnent, qui donnent l'idée de faire agir la personne, notamment pour tout ce qui est stockage alimentaire, prendre quand les choses arrivent, mettre de côté pour l'avenir, on ne sait jamais. On est dans une société là où tout est un peu lissé, quoique certains parlent d'effondrement, où on referait des stocks. Mais le cerveau de l'époque, reptilien peut-être, je ne sais pas comment on peut dire ça, est-ce qu'il influence encore sur les comportements de manière un peu, alors pas forcément visible, puisqu'on parle d'invisibilité là, est-ce que ça peut encore jouer maintenant ?
Eh bien justement, c'est un des postulats de base de ma thèse, c'est que finalement, l'impulsivité n'est pas si négative que ça, puisque sinon, d'un point de vue adaptatif, on devrait avoir de moins en moins de personnes impulsives. Et donc, j'ai un peu regardé dans les théories de l'évolution et ce que vous disiez de prendre ce qu'il y a maintenant, parce qu'on n'est pas sûr d'avoir de la nourriture plus tard et même d'être encore vivant plus tard, qu'on avait quand on était chasseur-cueilleur. Ça, c'est un comportement qui est à l'heure actuelle dit impulsif. Je ne sais pas si vous connaissez le test du chamallow chez les enfants. Où on propose un chamallow à un enfant et on lui dit si tu attends, tu en auras deux plus tard. Et on voit bien que les enfants n'arrivent pas à attendre, ils sont tentés, ils n'arrivent pas à contrôler, ils vont manger le chamallow tout de suite. Et donc on retrouve cette trace de je prends ce qu'il y a maintenant et je n'attends pas la récompense plus tard. Et du coup, c'est ces traces et c'est ce reste des chasseurs-cueilleurs qu'on appelle aujourd'hui impulsif, et qui du coup m'a fait dire que l'impulsivité n'est pas forcément négative. Et je me suis perdue dans mon fil de pensée, qu'il y a des restes, et finalement, à l'heure actuelle, dans notre société, à l'heure actuelle, on va considérer que ce comportement qui était normal avant est considéré comme négatif, ou en tout cas inadapté.
Donc, actuellement, on assiste à des évolutions technologiques gigantesques, on va dire ça. On ne sait pas toujours si les gens vont réussir à suivre les progrès qu'on leur propose. Certains sont un peu déconnectés, hein, d'une certaine manière. Par ailleurs, il y a des gens qui ont encore des modes de fonctionnement, comme on le disait, un peu ancestraux, etc. Ça devient compliqué de se gérer, de gérer son propre comportement dans une société où il y a des champs très différents selon les endroits où on veut nous coucouner ou des endroits où on veut nous mettre devant une réactivité pour s'adapter à de nouvelles tâches, de nouvelles fonctions, de nouvelles contraintes administratives ou peu importe. on vit un monde qui paraît plus simple, il est prévu pour ça, normalement, mais en fait, qui devient de plus en plus complexe. Est-ce que l'adaptation naturelle à ces évolutions peut tenir le coup encore longtemps ?
Je pense qu'il faut se préparer. C'est aussi un des résultats de ma thèse, c'est que finalement, quand on n'arrive pas à s'adapter sur le coup, sur le moment, c'est qu'on aurait dû ou qu'on devrait, pour la fois prochaine, se préparer, mieux se préparer, être plus proactif. Au lieu d'être dans la réactivité, de s'adapter sur le moment, il faut être plus proactif et se dire, il est possible que j'ai besoin de m'adapter plus tard.
Donc
je pense qu'il y a un changement de stratégie peut-être dans l'adaptation.
Quand on parle d'adaptation, il y a l'adaptation individuelle et puis l'adaptation de société, enfin collective. Trouver comment amener des gens à évoluer dans un contexte de nécessité dans lequel la société les pousse à aller, ça demande une certaine subtilité, un équilibre à trouver.
Ouais. C'est une très très belle question. Ça reste compliqué, mais je pense qu'à l'heure actuelle, on est conscient des progrès et de la vitesse de ces progrès, donc de la vitesse des changements. Mais cette année, on a été confronté à un changement qui était imprévu complètement par tout le monde. Mais on a quand même vu qu'on était capable de s'adapter, on a réussi à s'adapter. Alors ça a été compliqué, mais on a réussi à s'adapter. Donc il y a des personnes qui ont eu moins ces capacités et donc ont eu plus de conséquences psychologique, etc. Mais on a quand même vu que l'humain est toujours capable de s'adapter, même réactivement.
Mmh. Est-ce qu'on a, au travers de ces... Alors, c'est pas une expérience, là, c'est une réalité, détecté des mécanismes qui sont plutôt encourageants et des choses qu'on ne connaissait pas bien en psychologie ou en comportement et qui sont révélées assez étonnants et bien adaptées à des situations.
Au cours de la pandémie. Alors, à mon niveau, dans mon champ de compétences, on n'a pas, enfin, en tout cas, à ma connaissance, on n'a pas vu de choses. Mais j'ai l'impression qu'on a cette capacité de résilience qui nous a sauté aux yeux, finalement, puisqu'aujourd'hui, la vie reprend peu à peu. Et j'ose espérer qu'il n'y aura pas un oubli, mais en tout cas, cette lourde expérience qu'on a tous vécue aura, j'allais dire, peu d'impact. Non, c'est pas vrai. Laissera peu de traces, en tout cas psychologiques, parce qu'on aura développé ses capacités d'adaptation.
Un grand élément de réflexion, là, ça a été les libertés, celles qu'on a perdues d'une certaine manière. Et celles qu'on ne voudrait pas perdre, peut-être aussi, on ne sait pas exactement où on va encore. Est-ce que certaines formes d'action, de comportement, chez les impulsifs par exemple, est-ce que ces impulsifs peuvent avoir des effets bénéfiques ou non sur des préservations de liberté ?
Je pense que oui. Donc je pense que vous l'avez compris, mon postulat c'est de dire que l'impulsivité n'est pas forcément négative. Et donc oui, je pense que des personnes qui sont plus dans la réactivité, parce que l'impulsivité c'est ça, c'est être dans la réaction incontrôlée face à des stimulations extérieures, peut avoir ce côté bénéfique de je réfléchis pas aux conséquences de mes actions et du coup dans la poursuite de mes valeurs, si on touche à mes libertés, je ne vais pas y réfléchir à deux fois et je vais mettre en place des choses, des actions pour me défendre. Dans ce sens-là, l'impulsivité serait bénéfique. Ouais.
Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une palette de personnes ou de personnalités qui donne à l'homme en général de grandes possibilités de se régénérer, de se ressourcer, d'aller de l'avant sans prendre trop de risques, mais en en prenant suffisamment pour faire avancer dans le sens, alors qui est souhaitable, on ne sait pas trop par qui, mais qui est peut-être souhaité d'une manière générale.
Oui, je pense qu'il y a, il y a ce continuum et il y a un niveau optimal d'impulsivité, j'ai envie de dire, de, comme vous dites, prendre des risques, mais pas trop, savoir nuancer. Et je pense que c'est même quelque chose qui peut se... On peut apprendre à être un peu plus impulsif, à un peu lâcher prise, mais en même temps, à ne pas trop être impulsif et aussi savoir considérer les situations dans lesquelles je vais pouvoir quand même gérer au maximum pour qu'il n'y ait pas de conséquences négatives. Donc c'est une balance entre les deux.
Les fonctions dans la société sont très différentes d'une personne à l'autre. Il y a besoin de beaucoup de gens pour, voilà, dans les ressources humaines d'une manière globale. Est-ce qu'il y a des gens dont on utiliserait plus facilement l'impulsivité dans certains métiers, par exemple, ou d'autres, au contraire, il vaudrait mieux mettre quelqu'un qui a un autre type de comportement ?
Oui, je pense que au niveau, oui, au niveau des RH, au niveau des recrutements, cette question de la prise de risque, mais la capacité de le contrôler aussi, elle est très importante dans certains secteurs. Bon, je ne connais pas tous les secteurs, mais j'imagine qu'au niveau militaire, il faut quelqu'un qui puisse être capable de prendre des décisions rapidement, mais les bonnes décisions, qui, sous une situation de stress, qui est souvent le cas, prennent ces décisions rapidement. Et dans, donc, c'est bon, toutes les forces de l'ordre, évidemment, mais peut-être tout de même au niveau bancaire. Je pense que, oui, c'est ne plus regarder l'impulsivité sous l'étiquette « Ah, il est impulsif, ça va pas le faire », mais plus dire « Il est impulsif, est-ce qu'il sait gérer cette impulsivité ? Est-ce qu'il est impulsif invisible, entre guillemets ?»
Alors, c'est vrai que dans les établissements scolaires, on passe des tests. À l'armée aussi, on passe des tests. Enfin, ceux qui ont fait leurs 3 jours ou des choses comme ça, on passe des tests. Est-ce que ces tests comportent une série d'items qui... mesure, analyse ce type de comportement et justement l'intérêt de certains publics pour la profession.
Alors, je ne connais pas les tests utilisés et je n'ai pas de souvenir de ma journée. mais je crois qu'il y a des batteries de tests qui sont utilisées ou alors il y a cette envie d'établir une série de tests qui visent vraiment à étudier ces capacités-là. Mais je ne saurais pas dire quels tests sont utilisés et si il y a des items qui vont dans le sens de cette impulsivité adaptée.
Voilà, donc on va revenir, Fanny Grisetto, à votre recherche. Et est-ce que vous avez, à l'issue de cette recherche, prévu de publier quelque chose qu'on pourrait éventuellement se procurer ?
Alors, il y a déjà des publications en ligne, des publications de vulgarisation, deux, je crois, et des publications scientifiques, une qui est déjà publiée et deux qui sont en cours de rédaction et de publication.
On peut en parler un peu ?
Oui, pas de souci.
Je vous en prie.
Pour les publications de vulgarisation, donc il y en a une sur le site Écosciences Hauts-de-France et une autre sur le site The Conversation. Et notamment dans l'article d'Écosciences, je parle de ces impulsifs invisibles pardon, et de l'intérêt de ma recherche, de pourquoi j'ai fait cette recherche. Alors que l'article de The Conversation est plus un article théorique où je vulgarise les concepts que j'ai utilisés dans ma thèse.
Donc ce sujet que vous traitez, est-ce qu'il a déjà été un peu préparé par d'autres chercheurs ? Est-ce que vous inspirez ou suivez une réflexion, on dirait, à l'échelon peut-être international hein, de tous ces sujets ?
En fait, je suis repartie d'assez loin d'une théorie de 1990. D'un monsieur appelé Dieckmann qui disait, et je crois que c'était l'un des premiers à dire que finalement l'impulsivité c'était pas si négatif que ça, et il faisait la différence entre une impulsivité qu'il appelait fonctionnelle et une impulsivité qu'il appelait dysfonctionnelle, et il disait que simplement la différence c'était qu'il y avait des stratégies comportementales qui différenciaient ces deux types d'impulsivité, alors que le reste de la littérature considérait que l'impulsivité, c'était un déficit d'inhibition, un déficit de contrôle. Il y avait quelque chose qui ne marchait plus. Et donc, je suis repartie de cette théorie de 1990 pour, au lieu de chercher un déficit de quelque chose, chercher quelle est la stratégie qui pouvait différencier ces impulsifs fonctionnels que j'ai appelés invisibles et des impulsifs dysfonctionnels.
Donc votre labo de recherche, on peut peut-être en parler un peu. Comment vous y êtes arrivé? Est-ce que ça correspondait pour vous à un objectif où vous pourriez y réaliser ce que vous souhaitez en termes de recherche? Est-ce qu'il y a eu un appel peut-être par rapport à ce type de réflexion que vous avez pour compléter une équipe dans son travail? Est-ce que les débouchés de ce labo sont pour vous des choses que vous recherchez ou que vous recherchiez?
Alors dans mon cas, j'ai eu la chance en fait de travailler sur un sujet proche de mes thématiques dès le master, donc dans mon mémoire de fin d'études. Donc on travaillait sur les capacités de contrôle et j'y ai amené ma question sur l'impulsivité. Et ensuite j'ai eu la chance d'avoir une directrice de mémoire qui a bien voulu me suivre en doctorat et donc on a déposé notre projet pour être financé. Et donc, en fait, ça s'est fait assez naturellement. J'avais pas les réponses à mes questions, je les ai toujours pas encore, mais ça s'est fait assez naturellement entre le master et le doctorat de continuer sur cette thématique.
Trouver des financements pour une recherche, c'est parfois compliqué. Qu'est-ce qui peut favoriser ça? Je dis ça pour les futurs doctorants qui nous écouteraient.
Alors, c'est assez compliqué, oui. Chercher des financements quand il n'y a pas d'appel à projet, hein, puisqu'on peut aussi faire une thèse en candidatant, comme un entretien d'embauche, on candidate sur un projet de recherche. Mais dans le cas où il faut chercher des financements, il faut aller chercher des organismes, des secteurs qui pourraient être intéressés par les potentiels résultats de la recherche. C'est-à-dire que j'aurais pu très bien aller toquer à la porte de certains, par exemple, on parlait des RH, et leur dire, voilà, est-ce que ça pourrait vous intéresser que je regarde ce qui pourrait différencier les bons impulsifs des mauvais impulsifs, entre guillemets. J'aurais pu très bien le faire. Après, il y a le... Voilà, moi, j'ai été financée par la région Hauts-de-France et l'Université de Lille. Donc, ça a été un peu plus simple, entre guillemets. J'ai juste été auditionnée par l'école doctorale qui ont accepté le projet.
Beaucoup de chercheurs aimeraient publier dans des prestigieuses revues. Qu'est-ce qui existe dans votre domaine de recherche, hein, comme on va dire, support de publication accessible?
Accessible au public? Je crains qu'il y en ait peu. C'est vrai que la publication, c'est quelque chose assez... assez restreint en tout cas. Il faut être étudiant, par exemple, étudiant à l'Université de Lille, on a accès à toutes les ressources que les universités proposent. En public, généralement, on va avoir accès à ce que les chercheurs veulent bien mettre sur Internet. Et en ce moment, il y a quand même une vague, en tout cas j'ai l'impression de mon point de vue, une vague où les chercheurs déposent sur des plateformes publiques ce qu'on appelle des préprints, donc des articles scientifiques, mais qui n'ont pas été relus par des spécialistes.
Est-ce qu'une grande université, comme celle de Lille, hein, a intérêt à ce que ces chercheurs soient mis en avant au travers de leurs publications en accès libre pour que le public puisse s'identifier en faisant partie d'un tout, d'un monde, avec bien sûr la recherche comme essentielle et qui apportent des idées nouvelles ou qui les consolident?
Je pense que c'est important que les universités poussent la visibilité des travaux de recherche, mais peut-être plus par le biais de la vulgarisation, pas forcément sur les publications scientifiques en elles-mêmes, parce que, comme je vous disais, le seul moyen à l'heure actuelle d'avoir un accès à ces publications, c'est de les avoir en préprint, donc c'est pas relu par des correcteurs, par des experts du domaine. Et donc, on n'a pas la même qualité, entre guillemets, d'articles. Et donc, je pense que la vulgarisation du chercheur, par le chercheur pour le public, avec l'aide, bien sûr, des gens dont c'est le métier de faire de la médiation scientifique. Je pense que c'est une des pistes pour améliorer la visibilité, ouvrir la recherche au public et peut-être aussi donner envie aux gens de faire de la recherche. Parce que pour ma part, avant de faire de la recherche, je ne savais pas vraiment comment ça se passait, je ne savais pas ce que c'était. Donc j'ai un peu découvert ça en même temps que d'en faire.
Alors pour nous, bien sûr, la radio est un média qui permet aussi d'échanger des idées, de les faire connaître. Hein. Est-ce que vous avez des émissions sur des grandes chaînes, France Culture par exemple, qui vous semblent intéressantes à faire découvrir ?
Sur des grandes chaînes, non. Enfin, j'en ai une, mais je n'ai pas le nom qui me vient. Après, il y a des sites bénévoles sur Internet. Je sais que je fais partie aussi bénévolement d'un site qui s'appelle Papier Mâché. C'est vrai, j'aurais pu en parler. C'est finalement une vulgarisation d'une publication scientifique, c'est-à-dire que ce sont des experts du domaine. Donc, par exemple, moi, en psychologie, je vais prendre une publication, anglaise, française, qu'importe, et je vais la vulgariser. Et donc, on va aussi vulgariser la méthode scientifique plus que le résultat. Et donc, ce site est un des sites dont je parle souvent pour donner envie aux gens d'aller s'intéresser à la recherche.
Donc, quand vous dites s'intéresser à la recherche, c'est aussi des questions qui peuvent naître dans leur esprit. Est-ce qu'ils peuvent poser des questions, justement ?
Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, au cours de ma thèse, j'ai participé aux Fêtes de la Science. Et j'ai eu des questions qui m'ont laissé un peu sans réponse. Et du coup, ça m'a forcé à aller plus loin dans ma réflexion, à garder en tête cette question et me dire, il faut que j'y réponde. Ou en tout cas, il faut que je commence une réflexion. Et donc oui, je pense que c'est même crucial que le grand public puisse poser des questions. Parce que moi, je pourrais poser des questions à un physicien auquel il n'aurait jamais pensé peut-être, parce que j'ai une prise de recul et je suis complètement naïve. Et du coup, je ne suis plus dans ma bulle de recherche dans ma discipline. Donc oui, je pense que c'est très important.
Ce n'est pas
à sens unique. La communication.
On parle souvent d'équipes pluridisciplinaires, ça existe maintenant ? Est-ce que ça se développe ou bien est-ce que c'est un peu compliqué aussi ?
Encore une fois, avec mon point de vue, ça se développe. Après, je suis dans une discipline qui est déjà à la frontière de plusieurs disciplines, donc c'est un peu plus facile d'aller d'une discipline à l'autre. Mais oui, pareil, ça revient à la même chose, avoir un regard extérieur différent, naïf, entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, mais oui, ça se développe. Ça se développe.
Donc, Fanny Grisetto, avant de nous quitter, est-ce que vous auriez une idée à transmettre, peut-être une question à poser aux auditeurs, une réaction à susciter, là, ou une question que je ne vous ai pas posée, mais qui vous tenait à cœur ?
Il y en a plein, on pourrait discuter des heures. Non, pas particulièrement, juste que ces résultats, j'aimerais les voir appliqués, parce que c'est aussi un des buts de la recherche. Et c'est vrai que plus j'en parle à différentes personnes, plus j'ai d'idées d'application. Donc là, cette idée de test au niveau ressources humaines, c'est très intéressant. Voilà, moi j'avais dans l'idée que ces résultats aient une portée clinique, c'est-à-dire apprendre à ces personnes qui ont des déficits, en tout cas des problématiques du contrôle de comportement, à mieux gérer leur impulsivité.
Donc on peut imaginer aussi que dans les équipes des hôpitaux, on puisse se pencher sur vos travaux par la suite ?
Dans le personnel des hôpitaux ?
Ben, disons que les gens qui travaillent en psychiatrie, etc., est-ce que ce serait des domaines intéressants à intégrer ?
Oui, parce que dans beaucoup de troubles psychiatriques, l'impulsivité a une place majeure, dans les addictions aussi. Et donc c'est vrai que c'est ces services-là qui pourraient être le plus intéressés par ces résultats, voir ce qui est possible de mettre en place comme remédiation cognitive pour ces patients.
Peut-être ça pourrait intéresser le droit aussi, puisqu'en fait, entre l'impulsivité et le passage à l'acte, il y a des responsabilités. Jusqu'où elles vont, ça peut aussi être une question à poser.
Ouais, c'est vrai que dans le droit, ça va être plus compliqué. Ici, L'impulsivité, du coup, c'est pas un déficit de quelque chose, c'est vraiment une stratégie. Et du coup, une stratégie de contrôle qui est un peu différente. Et du coup, au niveau du droit, oui, on pourrait se poser la question, est-ce que du coup, ça déresponsabilise quelqu'un? Pour ma part, je ne suis pas sûre, parce que tant qu'on est conscient de son fonctionnement, on peut réussir à trouver des solutions.
Voilà, en tout cas, on espère que l'avenir sera favorable à l'humanité et que vous aurez en partie, pas comblé les failles, mais apporté votre pierre.
Merci. Un petit caillou.
Merci Fanny Grisetto.
Merci.